pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877-CUBE-RADIO.
L'économiste Francis Gosselin est avec nous. Salut Francis.
Salut Alex, comment ça va?
En pleine forme, toi aussi?
Yes, sir.
Merveilleux. Le géant chinois, on commence avec ça, le géant chinois du commerce électronique qui suit la même trajectoire que ses cousins américains. C'est Alibaba.
Ouais, ben, cousin, c'est un gros mot. J'étais justement en train de lire là, sur le fameux voyage de Nancy Pelosi à Taïwan. Donc, je sais pas si la parenté est toujours présente.
Un petit cousin bien loin qu'on voit pas souvent.
Exactement, en instance de divorce.
Oui, c'est ça.
Donc, effectivement, Alibaba, là, pour la nommer, là, qui est une sorte d'Amazon asiatique pour les auditeurs qui connaissent peut-être un peu moins, qui ont publié ce matin, dans le fond, à l'heure de Pékin, là, donc c'est quasiment hier, là, des résultats pour le deuxième trimestre. Un peu comme les entreprises américaines, ça fait plusieurs jours qu'on en parle, Alex, Alibaba a dévoilé des chiffres qui sont en légère baisse. Donc, son chiffre d'affaires, le total, s'exprime en yuan, qui est la monnaie nationale chinoise, de 205,5 milliards de yuan. C'est-à-dire environ 30 milliards de dollars US, là, si on compare. L'an dernier, ils avaient fait 205,7. C'est vraiment pas une décroissance là, qu'on peut même exprimer en points de pourcentage. C'est plutôt une stagnation ouais. dans les questions ici. C'est sûr que là, avec ce qui s'est passé en Chine avec la pandémie, là, vraiment une fermeture quasi complète de l'économie, le confinement très, très sévère, là, ça explique une grosse partie des difficultés. Aussi des difficultés que Alibaba a exprimées concernant sa capacité à rejoindre les marchés internationaux puis à se financer sur les marchés internationaux. Je sais pas si tu avais suivi un peu l'affaire, mais l'ancien PDG d'Alibaba, qui est aussi cofondateur de l'entreprise Jack Ma, qui est une personnalité internationale assez connue, il était disparu en 2021 pendant environ 2 mois, tout de suite après avoir critiqué le régime chinois il est réapparu à Hong Kong, genre dans une école primaire, en train de jaser l'homme. Qui vaut 30 milliards de dollars, là, est en train de faire la leçon à des enfants de 7-8 ans. Tout ça pour dire le titre avait été un peu malmené en bourse là, suite à tout ça. Et puis, de manière générale, le titre d'Alibaba, comme tous les autres titres technologiques sur la planète, va pas très bien. Ils ont perdu environ 20% depuis le début de cette année.
Ouais. La Banque centrale d'Angleterre, qui publie un rapport alarmant, rehausse aussi par le fait même ses taux.
Oui, exactement. Ben, c'est en soi, c'est pas tant une nouvelle là, qu'une banque centrale ait rehaussé ses taux, je te dirais, ces temps-ci. Mais c'est quand même intéressant là, de voir. Donc, première chose, ils ont augmenté seulement d'un demi-point, alors qu'ils étaient là, jusqu'à hier à 1,25% de taux directeur. Donc, si on se compare là, au Canada ou aux États-Unis, c'est un taux qui était encore très bas. Et ils n'ont pas, comme ici, fait le pari d'une augmentation forte, par exemple, de 1 point ou de 0.75 point, comme on a vu aux États-Unis. Ce qui est un peu intriguant, évidemment, parce que ben, tous les autres pays un peu ont normalisé, si tu veux, leur comportement les uns par rapport aux autres. Puis, évidemment, quand on est dans une situation comme celle-là où il y a une grande disparité de taux là, entre différents pays, ben, c'est la monnaie nationale qui finit par souffrir parce qu'elle est moins intéressante pour les investisseurs et les acheteurs de dette nationale. Ceci dit, ce qui est intéressant pour moi, par-delà la question de ce taux-là dont on a tellement parlé au Canada, c'est qu'ils ont publié aussi avec ça donc un rapport et ils prédisent, tenez-vous bien, une inflation au Royaume-Uni de 13%, ce qui est quand même élevé. Et donc, c'est comme un peu dissonant parce qu'on 13%, on pourrait s'entendre donc à une action beaucoup plus agressive en matière de taux.
Ben oui, ici, on est à quoi? On est à 8-9?
Ouais, ben, aux États-Unis, 9.1, 8.4, là, au Canada. Ouais. Mais on est dans ces eaux-là.
C'est ça.
C'est du même ordre de grandeur, mais 13, là, je pense, à
pas. Hey, 13.
Nulle part en Occident, en tout cas, dans tous les rapports récemment. Il faut dire que, comme je l'explique toujours, l'inflation, il y a plusieurs déterminants. La politique monétaire en est une. Donc, la question du taux directeur en est une. Mais il y a bien d'autres facteurs. Puis, évidemment, le facteur de l'énergie, dont on a beaucoup parlé, le prix de l'essence, mais aussi le prix de l'énergie là, pour toutes les autres industries qui achètent du fuel lourd, etc. Ben, l'Europe est beaucoup plus affectée que l'Amérique du Nord par la crise et le conflit là, en Ukraine. Et donc, c'est évidemment là, une situation sur laquelle la Banque centrale d'Angleterre peu de contrôle forcément direct. Là. Il y a de la diplomatie et tout ça. Mais la Banque centrale d'Angleterre a aussi fait valoir qu'elle s'attendait, comme ça, c'est un chiffre qui frappe un peu à une forte récession l'an prochain, une contraction de 1,5% du PIB anglais dans l'année 2023, qui serait fortement probable. Et donc, encore une fois, là, ça, c'est comme un peu le canari dans la mine, je trouvais, cette nouvelle-là, par rapport à toutes les autres économies où on anticipe un ralentissement de stagnation. L'Angleterre qui dit que ça va être 13% forte décroissance du PIB. Et à ça s'ajoute évidemment le fait que les salaires vont pas suivre le bal, donc à 13%. Donc, la banque prédit aussi une forte réduction de du pouvoir d'achat des ménages. Ce qui augure pas bien pour les politiciens non plus du côté de outre-Atlantique.
Je peux comprendre. Et ton dernier sujet me fait bien sourire. L'Agence du revenu du Canada qui veut passer, tenez-vous bien, en mode 100% numérique. Est-ce que tu es un peu stressé, inquiet, anxieux lorsque tu lis quelque chose comme ça? Je vous rappelle que déjà, c'est très compliqué hein, d'avoir la ligne à l'Agence du revenu. C'est pas simple, c'est pas des démarches toujours simple et agréable. Est-ce que ça va être encore plus compliqué?
Tu connais la blague des économistes, Alexandre, certainement. Là, il y a deux certitudes dans la vie, la mort et l'impôt.
Ben oui.
donc voilà une des deux certitudes là, qui est celle de l'impôt. Et donc, c'est effectivement l'ARC qui avait annoncé en 2021 cette intention-là. Donc, c'est pas un nouveau projet. Mais le projet était prévu pour cette année. Puis, je sais pas, je suis pas dans les officines du pouvoir, là, ni de la bureaucratie. Mais bref, ils ont décidé de reporter le projet à l'an prochain. Dans le fond, ce qu'il prévoit essentiellement, c'est que tu sais maintenant quand tu fais ton rapport d'impôt, la plupart des Canadiens, là, je l'ai appris en préparant le sujet, la plupart des Canadiens aujourd'hui envoient leur rapport électroniquement, que ce soit via leur comptable ou HR Block, là, tous ces services-là. Oui. Ils le soumettent électroniquement, mais ensuite l'ARC vous fait parvenir, généralement par courrier, une petite lettre qu'on appelle un avis de cotisation qui vous indique bon que vous étiez bang on, c'est la bonne affaire, ou il faut payer, ou vous recevez un chèque, généralement un chèque. Bref, ça pour dire c'est cet aspect-là principalement qu'ils souhaitent éliminer du processus.
Donc ils vont nous écrire via quoi? Via dans le fond l'onglet Mon dossier de l'Agence du revenu? Plutôt
exact.
Que de nous envoyer une lettre.
Ils n'y enverront plus de lettres. En tout cas, c'est l'intention. Là. Comme je dis, on verra ce qui va se passer dans les faits, mais l'intention donc, qui a été réitérée ces jours-ci, donc c'est vraiment dès la prochaine saison de l'impôt, donc 2023, les documents seraient envoyés donc aux contribuables dans mon dossier. Et c'est là où, en tout cas, comme je peux témoigner personnellement, là, je vais sortir un petit peu le citoyen Francis Gosselin du chroniqueur économique, mais c'est un système un peu brisé, mon dossier. Là. Moi, personnellement, j'ai énormément de difficultés avec ça. Il faut s'identifier, donner son numéro d'assurance sociale, se loguer avec une banque, donner sa date de naissance, le nom de son premier enfant. Puis là, ça fait comme 5-6 choses.
La couleur de tes bas, la grandeur de tes shorts.
Puis après, pas encore accès. Puis là, faut que tu demandes une lettre par la poste qui t'envoie dans les 10 jours. Puis là, rendu là, t'étais complètement oublié pourquoi tu voulais te connecter à mon dossier. Puis là, ça arrive. Puis là, faut que tu refasses ce processus-là en 14 étapes d'identification. Et là, tu rentres ton code. Et là, tu as finalement accès à tes informations, ton avis de cotisation, et so on et so forth. Donc, ils sont pas, si tu veux mon avis, là, quand on compare ça à Amazon, là, ou à n'importe quel service. Là, c'est pas tout à fait au point.
Non.
Même, tu sais, moi, je suis jeune papa, j'aimerais peut-être lever mon chapeau quand même, le RQAP, là, l'assurance parentale, là, franchement, clic, ça a super bien fonctionné pour moi, tu sais.
Bon.
Fait que là, l'ARC, c'est comme un peu en retard, c'est tout ça pour dire. J'imagine bien, là, tous ces citoyens, tu sais, 40 millions de Canadiens, là, qui vont en même temps vouloir avoir leur petite feuille de leur petit code pour se connecter à cette affaire-là. Il y a évidemment beaucoup d'opposition, pas juste de citoyens francistes, mais les ordres comptables du Québec et du Canada se sont officiellement opposés à cette décision-là. Ils indiquent que ça va énormément complexifier leur travail, puis ils font valoir qu'il y a quand même une grosse portion de citoyens qui ont soit peu ou pas accès à Internet, n'ont pas nécessairement la littératie numérique pour faire ça.
C'est ça, là.
Il évoque notamment les gens dans les CHSLD, c'est tout ça, donc pour qui. Et ce qui indique là, ces ordres-là, donc au Canada et au Québec, c'est qu'il pourrait y avoir des comptables qui carrément décident de ne plus faire des rapports d'impôts des particuliers. Et donc, les citoyens vont se retrouver un peu aux prises là, par eux-mêmes à non seulement faire le rapport d'impôt, mais en plus devoir se connecter à ce système-là. Donc, en tout cas, moi, je sais pas, mais il me semble qu'il y a un petit upgrade technologique qui va devoir être fait avant de passer à l'ère numérique du côté de l'Agence du revenu du Canada.
Oui, puis on peut-tu revenir à la base avant de se questionner à savoir est-ce que je devrais envoyer une lettre ou est-ce que je devrais correspondre là virtuellement par mon dossier? Pouvez-vous juste répondre au téléphone, Christy, quand on vous appelle, puis pas nous faire poireauter sa ligne pendant des heures et des heures et des heures pour finalement, souvent, c'est ce qui arrive, il raccroche! Pouvez-vous juste répondre au téléphone, offrir un service aux gens, aux Canadiens qui vous appellent pour essayer de démêler leur dossier, pour répondre à tous vos critères, vos questions, vos demandes, de l'alinéa B de 3.2.6. Répondez au téléphone, s'il vous plaît, avant de vous questionner sur on envoie-tu encore des enveloppes avec des timbres puis des lettres. Ça, honnêtement, Francis, des fois, moi, quand je lis des affaires de même, là, j'en viens pas.
Ça va économiser plusieurs dollars, Alexandre, de tes impôts.
Mais oui, puis notre conscience environnementale, sans doute.
Exact,
c'est important. Je dis pas que c'est pas une démarche qui est importante. On peut juste revenir à base puis offrir le service aux Canadiens. Ben non, absolument. Francis, passe une belle journée. On fait ça demain.
À demain, oui. Bonne journée à tout le monde.
Merci à vous d'avoir été à l'écoute dans cette émission très chargée en actualité. Vincent Dessureau suit à l'instant. On refait ça demain dès 10h. Bonne journée.